Louis Espinassous. Moi, mon métier principal, c'est d'être homme. Et c'est en tant qu'homme que le retour du loup dans ma montagne m'interpelle. C'est la même réponse pour l'ours avec lequel je vis. Homme en tant qu'individu, galopant, crapahutant dans la montagne, avec cette certitude absolue qu'une montagne avait des ours. Et une montagne sans ours, c'est deux montagnes complètement différentes. Et quand, dimanche dernier, que j'étais posé dans un affût que j'aime bien, et que j'avais en face de moi les premières neiges sur la montagne, et la piste de l'ours qui montait dans la montagne, c'était, et ça reste toujours une émotion formidable, et je me sens un peu plus homme avec cette présence du grand compagnon. Et à la fois, je me sens complètement homme quand je suis avec mes collègues, mes compagnons d'humanité, mes amis, bergers. Et eux, ils ont une autre vision de l'ours. Ils peuvent avoir aussi éventuellement cette vision extrêmement positive, cette vision d'un plus d'humanité, parce qu'un plus de nature et de nature sauvage et de nature puissante, il y en a qui l'ont. Mais par contre, ils partagent autre chose. Ils partagent quelque chose que je partage complètement. C'est en quoi leur vie d'homme est contrainte et perturbée par la présence du carnivore. Et c'est ce qui me choque le plus dans les problèmes d'ours et de loups. C'est le mépris qu'a une partie de l'humanité pour une autre partie de l'humanité. Et cette partie de l'humanité, elle parle de l'homme avec un grand H, et de la puissance de la nature et de la nécessité d'avoir une nature. Et je partage complètement cette vision sur l'homme et sur la nature. Mais ils oublient quand même qu'ils ne sont pas seuls humains et qu'on peut être homme et avoir des obligations de vie, d'avoir des objectifs de vie qui sont plus modestes, qui sont de vivre de son métier, qui sont... dormir la nuit de préférence. Quand on est berger brebis laitière, on a un rythme de vie qui est à peu près 18 heures de travail par jour, y compris dimanche et fête, de la mi-mai à la mi-août ou la mi-septembre. On peut avoir envie de dormir la nuit. On peut avoir envie d'avoir le culot, parce que ça n'existait pas avant, effectivement. Quand on était berger avant, on était le frère célibataire. On avait castration psychologique, interdiction de se marier, interdiction de faire une famille. Et il y en a qui réussissaient à être heureux quand même. Mais il y a d'autres qui ont choisi d'être bergers et qui ont envie d'avoir une vie de couple, qui ont envie d'avoir une vie de famille aussi, différente, mais aussi. Et quand on leur dit, ben, vous avez qu'à coucher tous les jours dehors, dans la montagne, pour protéger vos brebis, et vous ne ferez pas votre boulot si vous n'êtes pas là quand l'ours vient, ça me dérange profondément. Et puis ça me rappelle des souvenirs d'ours et de loups. Une fois, j'ai ce souvenir terrible d'un chercheur français qui était un colloque auquel je participe et qui explique qu'il arrive de Yougoslavie de l'époque, ça aurait pu être la Roumanie pareil, et que là-bas il n'y a aucun problème avec l'ours et le loup. Ah bon? Oui, les gens ils vivent en cohabitation, et pas mal de gens disent dans leur tête, oui, comme avant ici dans les Pyrénées, avant que les gens soient méchants avec les ours et les loups. Et alors on lui demande comment ça se fait, pourquoi? Ah ben il dit c'est très simple, il n'y a aucun problème parce que chaque fois qu'on garde les brebis, on les enferme dans un enclos. Et puis à côté, on met une espèce de petite roulotte. Vous savez, comme il y avait les cabines de plage dans le temps sur les plages, là, une espèce de truc en hauteur, ou les vieux cabinets au fond du jardin, pour ceux qui ont connu, là, un truc comme ça, en tôle, et sur des petites roues pour la déplacer. Et puis là-dedans, on met un gamin, hein, avec un bâton. Il ne peut pas s'allonger, donc il ne peut pas dormir. Donc ça limite les risques parce qu'il ne dort pas de la nuit ou il dort assis sur son espèce de tabouret, mais bon, toujours en sommeil léger. Donc dès que l'ours et le loup arrivent, il n'y a pas de problème. Donc il s'en aperçoit, il tape sur l'étole avec son bâton et puis ça fait fuir le loup et l'ours. Puis si vraiment, vraiment l'ours ou le loup veut vraiment manger des brebis, il a tellement peur qu'il crie tellement fort, il tape tellement fort sur l'étole de la petite cahute que ça réveille les parents qui arrivent. Oui. D'accord. Donc, il suffit de continuer à prendre des enfants esclaves et puis on n'aura aucun problème. Alors, chez nous, ce n'était pas une petite cahute verticale, c'était une petite cahute horizontale. Donc, c'était le burguet, on l'appelait, ou la gaïtadère. Vous imaginez une horloge comtoise ou un cercueil, hein, un petit peu plus grand. Et donc, avec deux brancards, et puis on promenait ça près des brebis pour garder les brebis. Hein. Et ils étaient deux gamins de 14 ans dans deux, sur deux pâturages différents. Et cet homme-là disait à son fils, on avait tellement peur du loup et de l'ours, que chaque nuit, un de nous deux abandonnait son troupeau, en sachant la rouste qu'on prendrait, la fessée, enfin pas la fessée, mais si les parents apprenaient ça, on avait tellement peur, et on passait la nuit alternativement, chacun tous les deux serrés dans la même cahute. Et je connais plusieurs histoires de bergers, et la plus émouvante, c'est ce berger qui, un grand costaud, qui venait de gagner, allez, pour l'époque, il venait de gagner 1000 ou 2000 euros sans rien faire. Il était arrivé à sa grange, il y avait l'ours qui était passé, qui avait tué deux brebis, et puis toutes les autres s'étaient écrasées au fond de la grange, au nombre de brebis qui étaient mortes, étouffées, avec les indemnités et tout ça, voilà, il avait gagné entre 1000 et 2000 euros. Et quand il est arrivé chez le garde du parc, il pleurait. Voilà. Ce grand gaillard-là, il était en train de chialer alors qu'il avait gagné de l'argent. Alors quand on leur dit, mais vous êtes indemnisé, hein, pas de problème. Oui, il y a une indemnisation, pas toujours déjà, mais elle est économique. Elle ne te remplace pas tes bêtes. Imaginez que voilà, vous êtes parents, papa, maman, comme la plupart d'entre nous, et comme c'est arrivé à un ami il n'y a pas très longtemps, ils partent faire des courses au carrefour, et puis bon, comme c'est sympa, ils passent au cinéma avec les gosses, ils reviennent du cinéma, il n'y a plus rien. La maison, elle a brûlé, y compris toutes les photos de famille, y compris les doudous des gamins. Imaginez à ce moment-là le mec qui arrive qui dit « Mais putain, c'est terrible, ça continue à brûler, mais regarde la puissance du feu, les flammes, mais c'est beau. Non, 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 va pas éteindre ça, c'est trop beau, mais c'est vrai que c'est beau, le feu, la puissance des flammes, etc. Et puis t'inquiète pas, de toute façon, t'es indemnisé, t'es assuré. Mais bien sûr que t'es assuré, puis même, et ça on le dit toujours au berger, même, tu vas pas y perdre, ta machine à laver, là, elle était pourrie, hein. Tu vas en avoir une neuve. Alors, déconne pas. Hein. Ouais, sauf que les doudous de mes enfants, ils sont cramés, et que mes enfants, ils n'ont plus rien. Ce qu'on prive, dont on prive le plus dans cette affaire-là, les éleveurs, c'est de leur dignité. On ne peut pas atteindre à la dignité de l'autre en lui disant « Regarde ta maison brûler, sois content que ta maison brûle et sois content que tous tes souvenirs d'enfance brûlent. » Sans rien faire, sans avoir le droit de foutre une lance à incendie ou un extincteur sur le feu qui démarre. On n'a pas le droit. Parce que c'est insupportable. C'est économiquement justifiable. C'est humainement insupportable. Donc, effectivement, je crois qu'il faut qu'il y ait des espaces où les loups et les ours, là où ils peuvent, se développent, mais où ils n'attendent pas à la dignité de l'autre. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument donner le droit, donner la dignité aux éleveurs de pouvoir aller chercher la pompe à incendie et l'extincteur, et quand ça brûle, d'éteindre le feu. Il faut donner le droit aux gens des vallées qui sont concernés par le loup et par l'ours un jour, s'il y en a beaucoup, de flinguer du loup. Et donner le droit à la personne de se défendre. Parce qu'il faut avoir vu les restes d'une bête tuée par l'ours, ou simplement blessée par l'ours, ou simplement blessée par le loup. C'est quelque chose quand même. La brebis ayant une capacité à souffrir sans se plaindre au-delà de ce qu'on peut imaginer, quand tu arrives sur un dégât d'ours, sur un carnage, quand il y a eu beaucoup de dégâts, et que tu as 12 brebis au tapis, dont 10 qui sont encore vivantes, avec 2,50 m de tripes d'un côté, debout, un œil qui pend, etc., et la brebis, elle dit toujours rien. Et puis, comme il me disait un copain, tu te lèves et puis tu vois des petits points rouges dans la montagne et tu dis c'est bon, les petits points rouges, je vais y aller, à chaque fois ça sera une brebis morte. C'est des choses qui sont insupportables.